à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je suis Charles Guérin, je suis professeur de langue et littérature latine à l'Université Paris-Est et spécialiste de rhétorique antique. Et je viens aujourd'hui vous présenter mon ouvrage « La voie de la vérité » publié aux éditions des Belles Lettres en 2015, qui a reçu récemment le prix Georges Perrault, décerné par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Il s'agit d'un ouvrage qui porte sur un aspect du procès romain que l'on a négligé jusqu'à aujourd'hui, le rôle du témoin, les modes de discours qui lui sont propres et la fonction du témoignage dans le processus de persuasion, tout cela à l'époque de Cicéron, soit au 1er siècle avant Jésus-Christ. À première vue, la situation du témoin paraît simple dans la Rome républicaine. Présenté au juge, le témoin est interrogé devant l'assistance par les avocats et parfois même par les parties. Au cours de cet interrogatoire, qui est souvent très tendu, très violent, il expose dans ses réponses ce qu'il a vu ou entendu, il énonce son opinion et il produit un discours qui est ensuite discuté par les orateurs, apprécié par le jury, et qui, dans la prise de décision finale, va devenir une preuve ou se trouver rejeté comme une affabulation. C'est un cadre élémentaire, bien sûr, et au-delà de ce cadre, les choses deviennent beaucoup plus complexes et pour nous, beaucoup plus floues quand on tente en particulier de préciser le fonctionnement réel et la matérialité du témoignage dans le procès romain. Car de façon assez surprenante, le témoignage judiciaire n'est pas pensé pour lui-même dans la rhétorique ancienne. La théorie antique du discours aborde en effet le témoignage comme un simple moyen de preuve et le traite de la même manière qu'elle le fait des contrats ou des pièces écrites, soit comme une preuve extérieure, abordée à travers des listes d'arguments qui sont entièrement préconstitués, pour ou contre, et sans discussion de détails approfondis. De plus, le témoignage est totalement négligé par la doctrine républicaine dans sa dimension pratique, qu'il s'agisse du déroulement de l'interrogatoire ou des stratégies qu'il faut employer. La rhétorique à Irénus ou le De Oratore, pour citer un texte des années 80 avant Jésus-Christ et le grand traité que Cicéron rédige en 55 avant Jésus-Christ, ne nous disent rien, ou presque, des manières de faire des témoins et de ceux qui les interrogent, et ils ne nous fournissent aucune information sur leur fonction réelle dans la prise de décision judiciaire. Enfin, le témoin n'apparaît pas de manière détaillée dans le corpus des discours de Cicéron. Aucun interrogatoire n'a été conservé sous une forme qui préserverait les questions et les réponses, et aucune description suivie d'un témoignage n'est disponible aujourd'hui. Dans les discours, le témoignage est quasi systématiquement présenté comme un contenu, X a déclaré Y, et non pas comme un discours inscrit dans un échange, ce qu'il était pourtant. Le témoignage, par conséquent, nous échappe. Dans ces conditions, la matérialité du témoignage judiciaire n'a jamais véritablement retenu l'attention des spécialistes de rhétorique ancienne. Une approche juridique et philosophique a souvent semblé suffire pour rendre compte de cette réalité testimoniale. En effet, dans sa forme la plus simple, le témoignage affirme l'existence d'un fait qui sera pris en compte dans la décision. Il est donc éclairé par la procédure, civile ou pénale, et il relève de l'histoire du droit. Comme il prétend à la véridiction, le témoignage est également un objet qui intéresse l'épistémologie et l'éthique, et l'on pourrait en rendre compte en appliquant au tribunal romain les méthodes qui ont été mises en place par la tradition philosophique lorsqu'elle s'est penchée sur le statut du savoir rapporté. Alors, tout cela fait que le témoignage, tout en représentant une réalité oratoire évidente, n'existe pas dans la doctrine rhétorique. Or, en tant que spécialiste de rhétorique, j'ai évidemment beaucoup de mal à admettre qu'il puisse y avoir un objet sur lequel la rhétorique n'aurait rien à dire. Et de fait, en limitant l'objet testimonial, en acceptant finalement que la rhétorique n'aurait rien à dire sur lui, est-ce qu'on ne cède pas à une illusion qui laisserait croire que la parole d'un témoin ne serait pas un objet construit, soumis à des règles d'efficacité et susceptible d'être amélioré ou affaibli? Bref, que le témoignage serait un discours obvi. Là encore, en tant que spécialiste de rhétorique, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de discours obvi. Et cette question... finalement, et l'ensemble de mon enquête sur le témoignage, trouvent leur origine dans une série d'études liées à cette question du discours obvi, une série d'études que j'avais consacrées en 2011 à l'échec dans l'exercice de l'autorité au sein des tribunaux romains. Un travail qui était mené dans le cadre d'un projet plus vaste, consacré aux théories antiques du défaut. Et je m'étais penché à cette occasion sur des textes de Valère Maxime et de Cicéron qui donnaient des exemples de témoins dont la parole n'avait pas eu d'effet alors qu'ils avaient un très grand poids social. Il déposait contre des accusés et ces accusés étaient acquittés. À cette occasion, j'avais constaté que l'échec dans l'usage de l'autorité de ces témoins avait des causes qui étaient pragmatiques. Ce n'était pas l'individu ou ses intentions qui étaient rejetées, mais la façon dont il engageait son autorité. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il existait une véritable rhétorique du témoignage, puisque les juges attendaient des témoins un certain comportement et avaient en tête une certaine norme de la déposition. Et c'est cette norme que ces témoins mis en échec n'avaient pas respectée. En quelque sorte, c'est la rencontre de la thématique de l'autorité et de la problématique du défaut et de l'échec qui ont été à l'origine de mon intérêt pour le témoignage. Le problème du témoin négligé, qu'on appelle « elevatus testis » en latin, révélait l'existence d'une norme et démontrait que les dépositions étaient scrutées et appréciées selon un code très précis, qui s'imposait néanmoins à tous les acteurs. En effet, la rhétorique ne dit pas toujours tout, et comme j'ai pu le constater dans des recherches précédentes, il arrive que la théorie du discours laisse de côté des éléments qui sont essentiels à la pratique, et qu'elle n'y parvienne pas parce qu'ils sont trop complexes à appréhender, soit qu'elle refuse d'en parler. J'ai donc voulu dépasser les mécanismes rhétoriques qui avaient évacué le témoignage de notre compréhension moderne pour accomplir une sorte de déplacement du regard afin de réinstaller le témoin au centre du procès, là où il était à l'époque romaine. Je poursuivais un double objectif. Il s'agissait tout d'abord de donner consistance à un autre régime du discours judiciaire, celui de l'interrogatoire du témoin. On se représente communément le procès romain avec un orateur à son centre prononçant un grand discours, continu, flamboyant si possible. Or, cet orateur pouvait aussi devenir interrogateur, et c'est cet interrogateur que je voulais faire émerger. Et d'ailleurs, même si on se le représente rarement Cicéron comme cela, il excellait dans ce genre d'exercice. C'était un très bon interrogateur et il mettait en œuvre des méthodes et des stratégies qui ne sont pas celles du discours continu, mais qui avaient évidemment une importance absolument capitale dans le processus de persuasion. Interroger le témoin, tout simplement. Face à cet orateur qui est devenu interrogateur, on trouve bien sûr un témoin dont la parole n'a rien à voir avec celle des avocats, telle qu'on peut la voir dans les discours de Cicéron. Car les déclarations du témoin, qui sont avant tout des réponses à des questions qu'on lui pose, ne cherchent pas à argumenter et à convaincre par ce biais, mais elles prétendent simplement énoncer la vérité, ce que le témoin a vu, sans avoir à l'étayer ou à la prouver. Le témoin rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il valide son discours par sa présence aux faits qu'il rapporte, et conformément aux habitudes romaines, qui celles-là sont bien connues, il valide son propos par ses qualités personnelles et par son autorité. Le témoin, par conséquent, ne doit pas persuader. Il doit simplement être cru. Et c'est là que se marque finalement la différence fondamentale entre lui et l'orateur. L'irruption de ce discours de vérité trouble l'image que l'on a d'habitude du débat judiciaire. En prétendant faire intervenir un fait brut dans la discussion, le témoin, en effet, entre en concurrence avec l'argumentation de l'orateur. Il oppose les faits aux vraisemblables. Mon second objectif, par conséquent, était d'éclairer le fonctionnement du procès à partir de cette réalité testimoniale, car j'avais la conviction qu'en prenant en compte le témoignage dans sa dimension rhétorique et pragmatique, eh bien, l'on pouvait faire évoluer la manière dont nous percevons le procès romain et, de manière plus générale, l'éloquence ancienne. Les témoignages, en effet, et c'est une réalité qui n'est pas simple à percevoir au premier abord, prennent énormément de temps. Ainsi, on peut évaluer la durée maximum des discours qui ont eu lieu dans l'affaire de Flaccus, dont on a trace par le Proflacco de Cicéron, à un maximum de 90 heures, j'entends par là les discours des orateurs, et un calcul assez complexe, que je vous épargne, permet d'évaluer la durée minimale des témoignages dans cette même affaire à une quarantaine d'heures. De plus, ces témoignages retiennent l'attention des juges et peuvent parfois faire basculer la décision. On en trouve un exemple dans la seconde action contre Verrès, un discours très classique, qui n'a pas été prononcé, mais qui respecte les règles formelles de la procédure. Et un discours où Cicéron justifie l'entorse qu'il a faite aux habitudes en faisant déposer ses témoins avant d'avoir prononcé lui-même le discours qui était attendu. Il explique qu'il y a des précédents, et il ajoute à cela une forme d'aveu que je voudrais vous citer. Voici ce qu'il déclare. Il s'adresse à son adversaire, Hortensius. « Hortensius, dit-il, nous gardons pour nous le constat que nous avons souvent fait en plaidant. Est-ce qu'on nous prête vraiment une grande attention dans ces affaires où l'on accuse quelqu'un d'avoir volé par la force ou par la ruse ? Non, les juges attendent tout des pièces et des témoins. » Donc c'est un aveu de Cicéron qui, bien sûr, est intéressé. Il cherche à justifier son usage des témoins. Mais cet aveu nous rappelle que le procès républicain n'est pas simplement une succession de discours. Il comprend d'autres étapes, d'autres modes de débat, et en particulier la déposition des témoins, qui jouent un rôle capital dans la victoire ou dans la défaite des parties mises en cause. Le témoignage représente donc une modalité du débat judiciaire qu'il faut réinstaller dans son rôle pour avoir une vision juste de la réalité du procès. Pour cela, il fallait interroger le modèle de persuasion qui était mis en œuvre dans le questionnement et dans l'évaluation du témoin, une persuasion qui met en avant le problème général du rapport latin à la parole d'autrui et, plus généralement encore, à la vérité. C'est en quelque sorte une entreprise de reconstruction que j'ai tenté de mener en croisant quatre approches différentes. La première de ces approches relevait de l'histoire des mentalités. Il s'agissait d'exploiter les textes pour percevoir comment on concevait la fonction testimoniale à la fin de la République. La langue latine distingue en effet différents types de témoins. Le testis proprement dit, qui correspond au témoin instrumentaire, c'est-à-dire un témoin qui assiste volontairement à un acte officiel, sur demande des parties. Le témoin que le latin appelle arbiter, c'est le témoin des romans policiers, celui, le témoin de rencontre qui assiste par hasard à un événement et qui le rapporte. Et bien sûr, le témoin testis, dans son sens judiciaire. L'enjeu était donc de dégager la spécificité de ce témoin, non seulement par rapport aux autres témoins, mais aussi aux autres intervenants du procès, les juges, les parties, les avocats. Et j'ai essayé de montrer en quoi ce témoin judiciaire était particulier dans son rapport aux faits, dans son rapport aux parties mises en cause, car le procès manifeste une exigence de neutralité, hein, exige la neutralité du témoin, mais celui-ci, malgré tout, est un personnage qui est très souvent engagé, au moins autant que le sont les orateurs, ce qui évidemment pose des difficultés qu'on peut aisément imaginer. Plus important encore, c'est l'identité ethnique et sociale du témoin qui devait être prise en compte, car la grande originalité du témoignage à Rome est qu'elle fait intervenir des individus qui normalement sont mis à l'écart de l'espace public. Des citoyens de basse extraction, qu'on n'entendrait jamais prendre la parole comme orateur, bien sûr, des femmes qui n'ont pas accès à la parole publique, et même des étrangers, des pérégrins. Le témoignage a donc ceci de spécifique qu'il fait entendre des voix qui ne sont pas celles des dominants, ce qui est extrêmement rare, finalement, dans les textes latins. Et la conséquence de cette irruption d'une parole qui est socialement distincte doit être prise en compte, en particulier dans ses conséquences concrètes. Le témoin, qui est parfois un inférieur, va se trouver menacé, mis en danger, dans des situations parfois extrêmement périlleuses pour lui. Il fallait ajouter à ce point de vue une deuxième approche qui était procédurale et juridique. Le témoignage, en effet, est beaucoup plus contrôlé par la procédure que ne l'est le discours des orateurs. Il est prononcé sous serment, il est régi par des règles extrêmement strictes, ce qui fait que les individus qui témoignent ne sont pas entièrement libres. Et les règles juridiques doivent être prises en compte comme cadre d'interprétation de la parole du témoin. Le troisième axe de mon enquête était philologique. Je me suis interrogé sur les raisons de la disparition du témoignage dans nos sources. Et je me suis appuyé sur Quintilien, sur Asconius, le commentateur de Cicéron du 1er siècle après Jésus-Christ, et sur Cicéron lui-même, sur deux textes en particulier, le discours fragmentaire Pro Cornelio et l'Invatinium, qui m'ont servi à reconstituer la matérialité des échanges durant l'interrogatoire. Quelle était la structure des questions, la forme des réponses, et plus généralement, le rituel langagier qui s'imposait à la déposition testimoniale. Tout en permettant d'approcher la question de la validation de la déposition et de l'engagement de l'autorité par le témoin, cet aspect proprement philologique de mon enquête m'a permis de rétablir le témoignage comme un instrument central du procès, je le disais à l'instant, en termes de durée des débats et en termes de moyens de la preuve. Enfin, le dernier aspect de cette recherche était pleinement rhétorique. Il s'agissait en premier lieu de reconstituer les stratégies liées à la déposition et les outils intellectuels qui étaient mis en œuvre pour interroger et pour évaluer le témoin. L'orateur, ainsi, doit être capable de sonder les témoins, de les contraindre à répondre dans le sens qu'ils souhaitent, de les contrer et parfois de les piéger de manière extrêmement agressive. Pour aborder ces éléments qui sont des outils de l'interrogatoire, les sources latines manquent. Pour approcher cette dialectique judiciaire, je me suis donc appuyé sur des exemples grecs, mais aussi sur des pratiques propres au système judiciaire anglo-saxon, qui, comme celui de Rome, est accusatoire. J'ai donc adopté une perspective comparatiste. En second lieu, mon enquête rhétorique a porté sur les arguments qui étaient employés par Cicéron pour renforcer ou pour affaiblir les témoignages une fois qu'ils avaient été déposés. Et quand on les analyse de près, en relation avec le corpus oratoire grec, avec les textes dialectiques d'Aristote ou avec les pratiques judiciaires américaines contemporaines, on découvre que les argumentaires de Cicéron vont bien au-delà des préceptes un peu pauvres qui sont fournis par la rhétorique et qu'ils offrent en réalité quelque chose qui prétend être une technique de détection du vrai et du faux chez le témoin. Cette technique est fondée sur une analyse des récits testimoniaux et des motivations des témoins, mais aussi sur la manipulation des préjugés sociaux, des préjugés ethniques de l'auditoire, en vue de construire l'image du témoin dans un sens favorable ou critique. Dans cette discussion, qui revenait sans cesse sur la question de la vérité, et non du probable, qu'on attend plus fréquemment dans les démonstrations, dans cette discussion se jouait l'accession du témoignage au statut de preuve constituée, ainsi que son articulation aux autres moyens de la démonstration, c'est-à-dire la déduction logique et l'usage de la narration vraisemblable. Et en menant cette enquête, j'ai fini par comprendre pourquoi la rhétorique refusait d'accorder au témoignage une importance théorique qui aurait correspondu à l'importance qui était la sienne dans la réalité. C'est d'abord, je pense, parce que le témoignage est construit au cours du procès et qu'il est toujours remis en question jusqu'à la fin. Cette situation fait du témoignage une preuve qui est instable, extrêmement changeante, et donc une preuve qui entre mal dans la démarche extrêmement normative de la rhétorique qui veut des choses claires et nettes. Mais pire encore, le témoignage et l'interrogatoire parasitent la représentation de l'orateur judiciaire en fragilisant sa prétention à emporter l'adhésion par son discours et par son éloquence. Le témoignage est un élément matériel qui contrarie l'argumentation logique et c'est, je pense, pour cette raison qu'il est éliminé de nos textes. Car ces textes cherchent avant tout à mettre en valeur la puissance persuasive de l'orateur, son brio, son éloquence. Et nous sommes en quelque sorte aujourd'hui victimes de la propagande de Cicéron, qui, en réécrivant ses discours et en dissimulant le rôle des témoins, cherche à conduire sa propre image plutôt qu'à rendre compte en détail de la procédure judiciaire de son temps. Il n'est pas un historien, il est un orateur. Malgré ce blocage théorique et philologique, j'ai tenté de montrer que derrière nos textes et notre compréhension de l'orateur se dissimulait une autre forme d'éloquence. Une éloquence qui fait intervenir des personnages moins éclatants que ceux qui occupent habituellement le devant de la scène et qui suppose chez le témoin, quelle que soit son origine, un comportement, une énonciation et une stylistique extrêmement inhabituelles pour nous dans nos représentations romaines. Paradoxalement, dans un paysage qui valorise l'affirmation de soi et l'affirmation de son autorité, on attend en effet du témoin qu'il se contente de déclarer de façon humble ce qu'il sait, sans argumenter, sans faire pression, et qu'il manifeste par tous les moyens une forme de soumission à l'appareil judiciaire. Il s'agit pour lui de déclarer et d'engager son autorité d'une manière qui n'a rien à voir avec celle que l'on rencontre habituellement dans les discours cicéroniens. Cette éloquence testimoniale met par ailleurs en œuvre des stratégies très élaborées qu'on ne perçoit généralement pas dans les discours et les récits antiques sur les tribunaux et qui supposent une méthode spécifique de fabrication de la crédibilité, à la fois dialectique, parce qu'on cherche à mettre le témoin en contradiction, et rhétorique, puisqu'on construit son image face au public. Pour finir, je voudrais insister sur quelques résultats qui me paraissent essentiels dans le cadre de cette enquête sur le témoignage. En premier lieu, l'individualisation de ce mode d'expression très particulier qu'est la déposition du témoin et l'interrogatoire du témoin me paraissent autoriser une réévaluation du fonctionnement global de la persuasion judiciaire à Rome. Le témoignage jouait dans les tribunaux un rôle beaucoup plus central qu'on ne le croyait jusqu'à présent. L'obtention et la discussion de la preuve testimoniale occupaient un temps considérable. Le témoignage orientait les débats et pesait lourd dans la décision. Lorsqu'on lui redonne son statut d'outil judiciaire essentiel, on arrive à une image très différente de ce que pouvait être le processus de persuasion à Rome. Comme je l'ai dit à l'instant, la rhétorique républicaine adopte volontairement un point de vue biaisé afin de préserver l'image de l'avocat et d'évacuer les difficultés que lui pose le fait brut du témoignage opposé à l'argumentation abstraite. Il faut donc dépasser ce point de vue pour accéder à la réalité des pratiques. En deuxième lieu, la prise en compte du témoignage permet de battre en brèche la vision monolithique des fonctions oratoires et des tâches de l'orateur. Devenu interrogateur, le patronus ou l'accusateur développe une autre forme d'éloquence qui est tout aussi riche et aussi raffinée que celle qui retient habituellement l'intention. La construction de l'image de l'avocat en est profondément modifiée. C'est une nouvelle facette de l'éloquence judiciaire que l'on voit surgir, celle de la dialectique, celle d'une approche méthodique et patiente de l'affaire jugée. L'orateur est aussi enquêteur, préparateur, interrogateur. Il fait autre chose que discourir. Il est un praticien complet. Enfin, le témoignage offre une voie d'accès privilégiée à la représentation romaine de l'autre, qu'il soit romain, cet autre, ou pérégrin. Alors que l'affrontement entre grands orateurs représente un jeu qui se déroule sur une scène fermée, avec des personnages socialement homogènes, sans parler du fait que ce sont des personnages qui sont tous masculins, le témoignage judiciaire fait intervenir une population diverse et donne même, je le disais, la parole aux femmes. L'orateur, pour une fois, affronte autre chose qu'un alter ego. Il est confronté à un véritable autrui qui, parfois, est très éloigné de lui. Un étranger, quelqu'un qui parle mal latin, qui ne comprend pas le rituel judiciaire. Ce testis, ce témoin, fait surgir des réflexes et des stéréotypes qui conditionnent une forme très particulière d'interaction langagière. Autrui, c'est la question principale, peut-il dire le vrai quand il n'a pas les mêmes coutumes et les mêmes interdits que nous ? Le témoin soulève fréquemment par ricochet la question centrale de la romanité. Et on voit quel profit on peut tirer de sa prise en compte. Et je suis profondément convaincu que le mécanisme de l'interrogatoire judiciaire enclenche une méthode intellectuelle et des réflexes qui fondent et expliquent le rapport romain à la parole d'autrui et plus généralement au savoir rapporté. Dans un monde où les techniques d'enquête sont très limitées, c'est sur la parole d'autrui, plutôt que sur des preuves matérielles solides, que repose la décision, la parole de l'orateur, mais aussi la parole du témoin. Ce qui fait que, à travers la pratique judiciaire du témoignage, c'est d'un modèle épistémologique typiquement latin qui se dessine. Il s'agit à l'évidence d'un modèle qui comporte des zones sombres, comme la mécanique profondément raciste qui sous-tend l'appréciation du témoignage étranger le montre. Mais cette méthode doit être reçue pour ce qu'elle est dans les mentalités romaines, soit comme un moyen d'accès à la connaissance que d'autres champs du savoir antique vont également exploiter. La quête du vrai, par questions et réponses, l'appui sur la parole d'autrui, l'évaluation du degré de crédibilité d'un individu au moyen d'instruments dialectiques et rhétoriques sont à la fois révélateurs d'un certain type de rapport à la vérité, où la vérité peut être garantie par des moyens qui ne sont pas strictement logiques, mais surtout révélateurs d'une conception particulière du rapport entre les hommes et de la transmission du savoir qui mêle à Rome vérité et autorité. Ce rapport à la parole d'autrui est profondément utilitariste et, somme toute, il privilégie une analyse de la nature du locuteur et de ses intentions. L'homme de bien, qui n'est pas animé par la volonté de nuire, doit être cru, tout simplement. Jamais le tribunal romain, et c'est quelque chose de très frappant pour nous, jamais il ne fait place à une réflexion sur la valeur des perceptions. Valeur des perceptions qui est pourtant très présente dans les interrogations philosophiques de l'époque. Pas de questionnement non plus sur l'objectivité qui nous soucie tant aujourd'hui. Le témoignage romain est toujours abordé comme un instrument épistémologique valide dont il ne convient pas de douter une fois qu'on a établi la qualité du témoin. Le contraste avec la réflexion sur l'appareil testimonial qui a débuté dans les années 70 et sur les faiblesses intrinsèques du témoignage, une réflexion qui se poursuit aujourd'hui parfois de manière extrêmement tragique dans les prétoires, cette réflexion est en décalage complet avec Rome, hein, de manière absolument flagrante. Et là encore, comme dans tant d'autres domaines des études antiques, il me semble qu'on mesure l'écart qui nous sépare des mentalités romaines. Je vous remercie.